Alors mes amis, dans cette matinée du 10 août, continuant notre étude de l'Épître aux Romains, nous allons considérer les chapitres 9, 10 et 11 qui nous exposent le mystère de l'endurcissement d'Israël et plus particulièrement encore la souveraineté absolu de Dieu et le grand sujet de l'élection. Nous voulons prier. Ô Dieu notre Père, nous éprouvons l'intense besoin que tu purifies nos cœurs, que tu nous oignes de ton esprit, que tu rendes toutes nos pensées captives à ton obéissance et que tu rendes ta parole lumineuse pour nous. Ouvre notre intelligence et donne-nous de recevoir avec douceur et crainte cette merveilleuse parole. Donne-nous de reconnaître que Dieu est Dieu et que d'aucune de ses actions il n'a à rendre compte, et que nous courbons devant toi, chassant définitivement toute pensée d'injustice, d'infidélité ou d'impuissance en Dieu, nous puissions nous perdre dans l'adoration, la louange et les actions de grâce. Pour notre bonheur, et notre témoignage efficace dans ce monde. Amen. Je me demande quelles sont les pensées et les sentiments de vos cœurs après la lecture de ces trois chapitres. Y a-t-il en vous un esprit de contestation? Mettez-vous Dieu au banc des accusés? Je pense que cette journée du 10 août peut être une grande et belle journée pour nous. Avec le chapitre 8 des Romains, nous étions arrivés au sommet de la pure grâce divine, partis des abîmes de la corruption humaine. Nous avons été vraiment transportés par l'action puissante du Saint-Esprit dans la sphère lumineuse de toutes les bénédictions que nous avons en Jésus-Christ et qui nous viennent du cœur paternel de notre Dieu. Maintenant, ces trois chapitres, 9 à 11, vont nous faire entrer dans les voies et les conseils de Dieu. Nous allons voir comment la doctrine de l'apôtre, qu'il n'y a point de différence entre juifs et gentils, peut se concilier avec les promesses spéciales faites aux Juifs. Les preuves que l'apôtre avait données de la culpabilité des Juifs ne touchaient pas aux promesses de Dieu qui restent toujours fidèles. Et je le répète, ces chapitres vont nous ouvrir largement la porte pour que nous puissions avoir l'intelligence des voies de Dieu et de ses conseils éternels. Alors nous prenons ces versets que nous relisons ensemble très simplement. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Alors nous voulons tout de suite nous laisser enseigner nous aussi. Si nous parlons, nous devons toujours dire la vérité en Christ. Il n'y a pas un moment où l'on parle devant Dieu et un autre moment où l'on parle hors de la présence de Dieu. Nous sommes toujours dans la présence de Dieu. Et quand j'entends des personnes nous dire « mais je vous dis cela devant Dieu », c'est tout à fait ridicule. Parce qu'on est toujours devant Dieu. La vérité, si nous sommes au Seigneur, elle habite maintenant dans nos cœurs. Dieu veut que la vérité habite au fond de notre cœur. Le mensonge, quel qu'il soit, vient du père du mensonge, vient de Satan. C'est pourquoi nous avons, si nous sommes au Seigneur, nous avons entièrement renoncé au mensonge. D'abord, le mensonge n'arrange rien. Un chrétien qui ment, eh bien, c'est un triste chrétien. C'est un chrétien en chute. Je ne vous dis pas qu'un chrétien ne peut pas mentir, mais s'il ment, c'est qu'il est en chute. C'est qu'il n'est pas dans la communion du Seigneur, quel que soit ce mensonge. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage. Et quand on ne ment point, donc, on a une bonne conscience. Et la mauvaise conscience aujourd'hui, c'est la maladie de beaucoup de chrétiens. Et pourquoi ont-ils mauvaise conscience? Parce que, connaissant les pensées de Dieu, ils ne se conforment pas aux pensées de Dieu. Et je pense que ce que nous avons lu hier soir dans Malachie doit rester gravé dans vos cœurs et que vous devez reprendre ces 7 questions et vous poser vraiment de sérieuses question encore sur votre vie personnelle. Est-ce que vous prenez Dieu au sérieux? Dieu est en train de nous dire, vous ne me prenez pas au sérieux. La conscience de Paul lui rendait témoignage qu'il disait la vérité et sa conscience était en accord avec le témoignage du Saint-Esprit. Donc alors il était en pleine forme spirituelle. Et qu'est-ce qu'il allait dire? Eh bien, qu'il éprouvait une grande tristesse et qu'il avait dans le cœur un chagrin continuel. Et ça, c'était vrai. Parce qu'on jugeait Paul et on disait de lui, parmi les Juifs, il était juif, il a renié le judaïsme, il a renié sa religion. Il est maintenant avec les païens. C'est un traître. Et c'est ce qu'on dit encore aujourd'hui aux Juifs qui se convertissent. Eh bien, loin de là, Paul, ayant vraiment trouvé grâce auprès du Seigneur, éprouvait une grande tristesse en pensant à ses frères. Et c'était un chagrin dans son cœur. Vous voyez, il n'avait pas simplement la joie du salut. Il n'avait pas seulement l'assurance du salut. Ce n'était pas simplement un homme qui aimait chanter « J'ai l'assurance de mon salut », etc. C'est quelqu'un qui souffrait en pensant à ceux qui n'étaient pas sauvés. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé du Christ pour mes frères, c'est-à-dire être maudit, loin du Seigneur, pour ses frères, ses parents selon la chair, donc les Juifs, qui sont israélites. Il vous fait penser à qui ici? À Moïse. Hein? Moïse qui voulait être effacé du livre de vie pour que ses frères soient sauvés. Eh bien voilà le grand Moïse du Nouveau Testament, c'est l'apôtre Paul. Hein? Si Moïse est l'homme qui domine l'Ancien Testament, l'apôtre Paul est certainement l'homme qui domine le Nouveau Testament. Alors, il souligne tous les privilèges qu'ont ses frères. Ils sont israélites, donc, et à ces israélites appartienne l'adoption. Car c'est quand même Dieu qui a adopté le premier qu'allait fonder le peuple d'Israël. C'était qui? Qui est-ce qui est le père de tout ce peuple hébreu? Abraham. Mais Abraham, d'où venait-il? D'où venait-il quand il a été appelé? Du paganisme. Il était en plein dans le paganisme. Et Dieu, dans son libre choix, dans sa volonté souveraine, trouve bon d'appeler ce païen et de l'adopter. Parce qu'il est Dieu. Alors il a tous les droits, on n'a pas à discuter. Pourquoi est-ce que tu as appelé Abraham plutôt qu'un autre? Ça, c'est le droit divin. C'est le droit de Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Et vous n'avez pas à contester sur cette question-là. Alors, Abraham lui-même était un païen. Dieu l'a adopté. Et maintenant, tous ceux qui naîtront d'Abraham bénéficieront des privilèges que l'on a quand on est adopté. Ils deviendront, eux aussi, héritiers. Il a été adopté et tout le peuple d'Israël se réclamait de cette adoption. À lui, à ce peuple, appartient aussi la gloire, parce que la gloire a été promise. Les alliances, il n'y a pas seulement celle d'Abraham, mais celle qui a été renouvelée avec qui? Isaac, et ensuite avec Jacob, confirmée à Moïse et aux prophètes. À qui sont la loi? C'est bien le peuple qui a reçu la loi mosaïque dans le désert, et c'est un grand privilège. Le culte, ça c'est tout le livre du Lévitique. Et les promesses, c'est toutes les promesses faites à Abraham, mais confirmées aussi par tous les prophètes. C'est le peuple des patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, et c'est de ce peuple qu'est issu selon la chair, loin, c'est-à-dire le Christ, qui veut dire loin, le Messie, qui est au-dessus de toute chose, quoi? Dieu. Vous avez l'affirmation que le Christ est Dieu. Il n'est pas seulement fils de Dieu, il est Dieu, Dieu béni éternellement. Voilà donc ce que Paul dit, des sentiments de son cœur. Voilà ce qu'il proteste. Donc, il aime son peuple. Et je ne peux pas relire ce texte sans revivre intensément une soirée passée à Haïfa, donc en Israël, dans ce grand port d'Israël. C'était un soir après une retraite que j'avais présidée au Mont Carmel. On m'avait invité chez le géomètre en chef de la ville de Haïfa. C'était un athée, un juif athée, et il avait fait une invitation pour une soirée chez lui, un artiste, musicien, peintre et tout ce que vous voulez. Et j'étais avec des amis, et comme il savait que j'avais eu cette retraite pour des jeunes Israéliens, une centaine venus de toute la contrée d'Israël. Il m'a demandé, mais Racine, qu'est-ce que vous avez pu dire à nos juifs, vous un chrétien? Et il y avait beaucoup de monde qui était là, je ne les connaissais pas. Et j'ai simplement résumé qu'avait été le thème de notre retraite, la maîtrise de soi, dans les Proverbes. Il dit, ben, mais ça c'est très intéressant. Et puis, au bout d'un moment, quand je lui ai exposé les grandes lignes de ma retraite, il me tape sur la cuisse et il me dit, bien vous voyez, entre vous et moi, on s'entend bien. Mais c'est ce foutu Saint-Paul qui a mené la pagaille entre juifs et chrétiens. Alors, il a sorti ça comme ça. Parce que moi je m'entends encore avec vous, c'est intéressant, mais... Voilà, c'est à cause de Saint-Paul. Je dis, mais qui vous a dit ça? Il dit, oh, mais j'ai lu ça dans un livre d'un philosophe allemand. Alors, je me suis permis de lui dire, vous savez, c'est pas une référence. Quand vous pensez à ce que les Allemands ont fait durant la guerre au peuple juif, et moi je vous conseillerais plutôt d'avoir un tête-à-tête avec saint Paul lui-même, parce qu'il faut toujours faire face. Je dis, est-ce que vous permettez que je vous demande de lire à haute voix dans le chapitre 9 de l'Épître aux Romains ce que Paul dit de son peuple? Puis je sors ma Bible. Il dit, oh, mais moi j'en ai aussi une Bible, et complète. Alors il va à sa bibliothèque et devant tout le monde, il sort une belle Bible. Il arrive au chapitre 9 et voilà mon géomètre qui se met à lire à haute voix ses premiers versets. Eh bien, vous savez, on l'a vu hier soir, la puissance de la parole de Dieu, hein, parmi nous. Je l'ai vu encore ce matin, et pourtant je n'ai pas commenté, hein, on est resté simplement avec la parole. Eh bien, ici, quand il a eu fini, il m'a dit, merci cher ami. C'est effrayant, les préjugés que l'on peut avoir. Voilà. Et c'était toute une prédication. Et ses yeux s'étaient ouverts. Alors, n'ayez pas peur de mettre les âmes en face de la parole de Dieu. Ne pensez pas que vous devrez argumenter. La puissance de la parole est telle qu'elle ferme la bouche des opposants. Ceci dit, nous allons plus loin. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car l'apôtre Paul veut tout de suite souligner que si les Juifs, dans leur ensemble, ont manifesté qu'ils étaient tous coupables devant Dieu, et si beaucoup s'étaient endurcis, il n'a jamais voulu dire qu'il n'y aurait pas de Juifs sauvés. Et c'est là qu'il dit tout de suite, je n'ai pas voulu dire, ou ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Et il ajoute, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, c'est-à-dire tous ceux qui se disent juifs ne sont pas authentiquement juifs. Et il ajoute, et pourraient être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, c'est-à-dire les enfants du Père, des croyants. On peut se réclamer de la postérité d'Abraham sans être réellement un enfant d'Abraham. Et il va nous donner plusieurs preuves de cela. Que ce n'est pas la descendance charnelle qui nous donne des privilèges. Qui était descendant d'Abraham? Il avait combien de fils? D'abord, il avait deux fils d'abord. Le premier, c'était Ismaël. Ismaël était descendant d'Abraham. Et puis, ensuite, est venu Isaac. Isaac. Et ce que Paul veut nous montrer, c'est que c'est seulement Isaac qui a été choisi. Mais Ismaël est pourtant aussi un descendant. Alors, comment vous expliquez cela? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été Ismaël? Alors, on pourrait dire, oh ben c'est bien simple, parce qu'Ismaël est né d'une esclave. N'est-ce pas? Alors, Dieu a choisi le fils légitime, le fils de la femme libre. Ça serait une explication. Et les Juifs pouvaient expliquer ça comme ça. Si c'est Isaac, c'est parce qu'Isaac est vraiment le fils de la femme, et non pas de la concubine. Mais non, pour bien montrer que Dieu est libre de son choix, il va prendre l'exemple de Rebecca. Mais Rebecca, elle a enfanté deux fils d'un même homme qui s'appelait Isaac. Et qu'est-ce qu'on voit dans la famille d'Isaac? On voit le même phénomène. si dans la famille d'Abraham, ce n'est pas le premier-né qui est Ismaël qui a été choisi, dans la famille de Rebecca et d'Isaac, qui est-ce qui aurait dû être le premier-né et qui était le premier-né? C'est Ésaü. Mais ce n'est pas Ésaü qui a été choisi. Même qu'ils étaient du même père et de la même mère. C'est qui? C'est le plus jeune. C'est Jacob. C'est Jacob. Donc, la souveraineté de Dieu dans son choix, nous n'avons pas à lui dire qui il doit choisir. C'est lui qui choisit selon ses pensées, selon son conseil. Alors, je relis depuis ce verset 8. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu. Alors, pour être enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Naître de nouveau. Mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, donc la volonté de qui? De Dieu. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais je voudrais tout de suite vous dire que cette parole, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, n'a pas été dite avant la naissance de Jacob et d'Ésaü. Elle se trouve, cette parole, dans quel livre? Malachie. Donc, qui a écrit 4 siècles avant Jésus-Christ, donc bien après la naissance de Jacob et d'Ésaü. C'est une constatation, il a été écrit cela, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais nous verrons pour quelle raison Dieu a eu de la haine pour Ésaü. Mais ce que vous devez retenir de cela, c'est que Paul cherche à établir la souveraineté absolue de Dieu. Dieu est Dieu. Et d'aucune de ses actions, il n'a à rendre compte. Et dans les choix qu'il fait, il n'y a aucune injustice. Pour quelle raison? C'est là que je vais tester si vous avez compris quelque chose aux 8 premiers chapitres. Qu'est-ce qu'il s'est efforcé de nous montrer dans toute cette première partie de l'Épître aux Romains au sujet de tous les hommes? Qu'est-ce qu'ils sont? Tous pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu, donc ils sont tous perdus. Et qu'est-ce qu'ils méritent tous? La mort, la colère de Dieu. Bon, ça c'est un fait, vous l'avez bien saisi. Mais maintenant, s'il y a des sauvés, c'est que Dieu est Dieu et il a le droit de faire grâce. Vous ne pouvez pas refuser à Dieu de pouvoir faire grâce, puisqu'il est Dieu. Mais s'il fait grâce à certains et qu'il ne fait pas grâce aux autres, est-ce que vous allez dire que Dieu est injuste? Celui qui périra, est-ce qu'il était coupable? Oui. Alors, si le coupable est exécuté, est-ce qu'il y a une injustice? Mais si le président d'un État, parce qu'il a le droit de grâce, gracie un coupable, est-ce que vous dites que celui qui a gracié le coupable est un injuste? C'est le droit souverain. C'est comme dans la parabole, pour vous donner un exemple, la parabole des ouvriers qui ont été embauchés à la 11e heure. Le maître s'était mis d'accord avec les ouvriers de la première heure sur un certain montant, sur un certain salaire. Et les ouvriers de la première heure étaient d'accord, envisageant toute leur journée, quand le patron leur a dit « Je vous donnerai tant ce soir », ils étaient d'accord. Maintenant, le patron, voyant qu'il y a des ouvriers qui traînent sans rien faire encore à la 11e heure, les invite à entrer dans sa vigne, mais sans contrat. Et ils y entrent, et il les fait sortir les premiers du travail en leur donnant le salaire qu'il avait promis aux premiers ouvriers. Alors les premiers ouvriers se disent, en voyant qu'il a donné un tel salaire aux ouvriers de la 11e heure, il va nous en donner davantage. Et ce n'est pas ce que fait le patron. Le patron est régulier avec son contrat, il le paye, il leur paye le même salaire. Alors il y a des protestations, on conteste, on crie à l'injustice, et le patron leur dit, mais est-ce que je ne t'ai pas donné ce que je t'avais promis? Oui. Alors, pourquoi cries-tu? Ah, mais vous avez donné plus aux autres. Et que répond-il? Est-ce que ça te déplaît que je sois bon? Comprenez-vous ça? Alors, vous devez partir de ce principe que Dieu est Dieu, et qu'il est souverain, et qu'il fait ce qui lui plaît. Mais nous n'avons droit à aucune grâce nous-mêmes. S'il nous a fait grâce, ben c'est la grâce. Et nous l'expliquons pas. Nous n'expliquons pas ça. Ça, c'est l'affaire de Dieu. C'est son droit le plus absolu. Mais qu'est-ce que ça devrait mettre dans nos cœurs? La joie, la reconnaissance, l'adoration constante. Alors, je voudrais que vous reteniez bien de ces chapitres trois principes. Le premier, c'est que Dieu a le pouvoir de tout faire et que personne n'a un mot à dire. Parce que Dieu est Dieu. Dieu a le pouvoir de tout faire et personne n'a un mot à dire. Deuxièmement, Dieu use, comme nous allons le voir, d'un support merveilleux envers les méchants, envers lesquels sa colère se manifeste finalement. Mais quand vous voyez son attitude envers les méchants, vous constatez qu'il use d'une patience extraordinaire envers les méchants avant de manifester cette colère qui va les atteindre. Et troisièmement, Dieu démontre sa gloire dans des vases qu'il a lui-même préparés par miséricorde pour la gloire et qu'il a appelé soit d'entre les juifs, soit d'entre les gentils, selon la fameuse déclaration que l'on trouve dans Osée. Alors, nous continuons maintenant notre lecture. Que dirons-nous donc, verset 14, c'était bien ce à quoi nous pouvions nous attendre. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Qu'est-ce qu'il voulait faire Dieu à ce moment-là? Ça nous reporte où cette parole? Dans l'Ancien Testament, mais à quel moment? Au veau d'or. Quand Moïse est descendu du Sinaï et que, justement, Dieu avait dit à Moïse, je vais exterminer tout le peuple. Est-ce qu'il y avait seulement une partie du peuple qui avait péché au veau d'or? Tous. Ils étaient tous autour du veau d'or, Aaron y compris. Et quand Dieu dit à Moïse, je vais descendre, je vais exterminer ce peuple et je ferai de toi une grande nation. C'est là que Moïse dit, non Seigneur, efface-moi plutôt de ton livre, mais sauve ce peuple. Et alors, Dieu dit, eh bien oui, j'ai entendu ta prière, j'agirai. Mais, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je suis d'accord de ne pas anéantir tout ce peuple est coupable, mais je sauverai ce que je veux. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va contester? Est-ce qu'il y a une injustice s'il fait ça? Pas du tout. Il est Dieu. Sinon, ça veut dire que vous n'avez pas encore accepté la souveraineté de Dieu dans votre vie, que vous ne connaissez pas Dieu. Dieu est Dieu. Il n'est pas un homme. Il est souverain. Souvenez-vous de ce verset 15. Moi, je ne peux pas dire ça. Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Je ne suis qu'un homme. Mais Dieu a le droit de dire cela. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est cela qui est merveilleux et qui ferme la bouche à toutes les prétentions humaines. Ceux qui ont été sauvés au moment du veau d'or, est-ce qu'ils peuvent dire on le méritait? Dites-moi un peu. Personne ne pouvait dire qu'il méritait la vie. Donc ceux qui étaient sauvés au veau d'or, c'était tous des condamnés à mort qui étaient graciés. Et si la grâce leur était faite, ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas coupables. Mais ils s'étaient reconnus coupables. Alors voilà pour la miséricorde, l'exemple de miséricorde. Mais maintenant, quant à l'exemple de la colère, l'exemple du jugement, c'est verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon. Maintenant, on entre en Égypte. Et là, vous avez un exemple d'un vase de colère. L'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Quand Moïse est arrivé devant le Pharaon et qu'il lui a dit, ainsi dit l'Éternel, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Qu'est-ce que le Pharaon a dit? Chapitre 5 de l'Exode. Qui est l'Éternel pour que j'écoute sa voix, hein? Je n'obéirai point. Je ne laisserai point aller mon peuple. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait tomber la foudre sur lui instantanément. C'est ça? Il lui a donné toutes les possibilités de se repentir. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, dix fois. Car c'est à la dixième plaie que le jugement est tombé sur le Pharaon. Alors ne dites pas que Dieu n'a pas de la patience avec les incrédules. Mais quand il voit que le cœur, après un appel, après deux appels, après trois appels, on en a eu combien ici d'appels? Non mais, aucun manin. Est-ce que nous serions de ceux qui, comme le Pharaon, fermons notre cœur parce que ça vous concerne personnellement, vous qui êtes ici? Dieu vous a parlé. Et si votre cœur n'est pas encore au Seigneur, dites-vous bien alors que vous êtes contre le Seigneur. Ou bien on est avec le Seigneur et on obéit à sa voix, ou bien on est contre le Seigneur et on ferme son cœur. Et ce qui vous menace, et c'est cela mon angoisse et ma crainte, on m'a demandé hier pourquoi j'étais triste. Eh bien, j'ai de la tristesse parce qu'il y a des cœurs qui sont encore fermés. Et non seulement cela, mais il y a parmi vous des personnes qui confessent le Seigneur, mais qui sont agacées de voir la conduite d'autres personnes qui sont plus engagées qu'elles pour le Seigneur. Et si personne ne vous embête pas, si personne ne vous achale pas, si personne ne vous endoctrine pas, mais simplement parce que vous sentez qu'elles ont une vie plus intime avec le Seigneur, elles vous gênent. Et vous seriez tout prêt à leur dire, n'en faites pas tellement. Ça veut dire quoi alors? Si ces personnes estiment qu'elles ont besoin de ce temps pour lire la Bible davantage que pour faire du ski nautique, mais on ne vous reproche pas à vous de faire du ski nautique. Seulement le bateau est crevé pour l'instant, c'est pas de notre faute. On l'avait fait réviser complètement. Mais vous êtes libre de vous donner à toutes les activités que vous voulez. Alors si vous voyez d'autres personnes qui estiment que dans ce temps unique qu'elles ont ici, alors qu'elles ont beaucoup de responsabilités et de travail, eh bien que elles veulent consacrer ce temps pour se plonger dans la parole de Dieu, pour grandir, pour croître, et respectez-les. Alors qu'est-ce que ça veut dire, votre christianisme? Vous êtes donc des tièdes, et quand vous approchez de quelqu'un qui est un peu bouillant, ça vous chauffe. Ça vous brûle. C'est quand même assez triste. Mais tout cela, vous savez, on le sent dans un temps. On l'éprouve. Jésus, finalement, c'était un gêneur. Il n'achalait pas les gens, lui. Il les invitait, simplement. Mais pour finir, on n'a plus pu supporter cette vie de Jésus. Alors, on l'a crucifié. Eh bien, ceux qui veulent vivre pieusement aujourd'hui seront persécutés, et spécialement par les gens religieux, par les gens qui se disent sauvés. Et quand on en voit un plus avancé ou une plus avancée dans la vie chrétienne, plus engagée, eh bien, elle nous gêne. Et on pense tout de suite que c'est un exalté ou une exaltée. C'est triste, cette mentalité. Et l'on se juge. Et voyez-vous, il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Si vous lisez le dépliant du camp Mahanaïm, il est bien dit que le camp est fermé. Pour quelle raison? Parce que nous recevons des personnes qui viennent de tous les coins du monde, nous ne savons rien de leur vie, nous les recevons telles qu'elles sont. Il est possible que sur bien des points, ces personnes n'aient pas une vie qui glorifie pleinement le Seigneur. Mais nous les acceptons dans la famille et nous devenons une famille. Alors, dans cette famille, le Seigneur agit, mais nous ne sommes pas sous des règlements pour dire vous ne devez pas faire ceci, vous ne devez pas faire ça. Tout ce qu'on observe, c'est les lois de la province, parce que nous sommes soumis aux autorités. Mais il y a bien d'autres choses qui, dans ces 15 jours, vont être montrées aux uns et aux autres et vont changer la manière de faire, la manière de parler de plusieurs. Et alors, nous avons cette patience de laisser le Seigneur montrer aux uns et aux autres les choses qui peut-être ne sont pas correctes dans leur vie, dans leur manière d'être vis-à-vis des autres. Puis voilà, tout à coup, il arrive quelqu'un du dehors, qui n'a rien à faire dans le temps, qui transgresse les lois du temps, qui ne vient pas même se présenter devant la direction du camp pour dire qui il est et ce qu'il fait, et qui vient jusqu'au bord de l'eau, et qui commence à vous voir nager ou faire ceci, et qui commence à trouver que vous n'avez pas un maillot de bain convenable, c'est peut-être vrai, je n'en sais rien. Les jumelles, je ne les prends pas pour vous voir depuis ma tour. C'est ça. Je descends bien quelquefois, mais enfin, je ne suis pas un flic. Je ne suis pas de la police des mœurs. Mais nous vivons ensemble une famille. Alors, quelqu'un venant du dehors commence automatiquement à critiquer. Bien sûr qu'il ne savait pas que tout le monde voyait la poutre qui était dans son œil, alors qu'il essayait d'enlever la paille qu'il voyait chez les campeurs. Mais vous voyez, ça, ça crée une atmosphère difficile, une atmosphère pénible. Je ne dis pas que les réflexions que cet homme pouvait faire étaient fausses, mais c'était de nouveau un jugement, et lui-même ne se rendait pas compte qu'il transgressait, il était en plein désaccord avec le Seigneur, il n'avait rien à faire là pour juger les autres. Comprenez-vous? Alors encore une fois, ne nous jugeons pas les uns les autres. Et comprenons que, parce que qu'est-ce qui va se passer? Je le sais d'avance. On ira dire au camp Mahanaïm, M. Racine, il est souffert. Il y a des choses épouvantables. Et de là à dire que c'est comme à Nice qu'on se baigne avec les seins nus à Mahanaïm avec ma grande bénédiction, hein, ça fera tout le tour de la province et ça retournera dans les vieux pays. Comme on a osé dire que quand je vais en Israël avec un camp Mahanaïm, je permets à tous de se baigner nus. Et oui, et ce sont des pasteurs qui racontent ça. Pour essayer de détruire, pour essayer de démolir. Alors, je vous mets en garde. Si vous voulez que la réputation du camp, ou que le témoignage que j'essaye de rendre ne soit pas décrié, eh bien, pensez aussi à ces choses. Et pensez à la patience de Dieu. Verset 19. Nous revenons à notre sujet. Ainsi, verset 18, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement entre juifs, mais encore d'entre les païens. Selon ce qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où l'on disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et comme Ésaïe l'avait dit, auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorre. Il n'y aurait pas de sauvés.
Alors que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » C'est de qui qu'il est parlé ici? Du Christ, n'est-ce pas? Du Christ. Alors, tout cela se résume en ceci. Vous vous souvenez maintenant que tous les hommes sont perdus, aussi bien parmi les Juifs que parmi les païens. Mais Dieu, qui est le Créateur, est aussi bien le Créateur des Juifs que le Créateur des païens. Et maintenant qu'il a manifesté que tous étaient perdus, s'il a employé les Juifs pendant tout un temps pour nous montrer qu'il était libre de choisir qui il voulait et de se donner entièrement à un peuple, sans être injuste vis-à-vis des autres, maintenant, ce Dieu qui s'est donné à ce peuple est libre aussi de faire du bien aux païens, à qui il veut. Puisque, au fond, tous sont coupables. Ils sont tous coupables devant Dieu. Donc, il n'y a pas d'injustice en Dieu. C'est simplement pour exalter la grâce. S'il y a des sauvés parmi les Juifs, c'est par grâce. S'il y a des sauvés parmi les païens, c'est par grâce. Est-ce qu'il y en a qui sont sauvés par leurs œuvres? C'est la conclusion de ce chapitre. Vous ne pouvez pas être sauvés par les œuvres. Et l'exemple vous est donné par les Juifs. Est-ce que les Juifs sont parvenus au salut par les œuvres? Non. Est-ce qu'ils sont parvenus à établir leur justice en faisant des bonnes œuvres? Non. Ils sont devenus transgresseurs en étant placés devant la loi. Alors, maintenant, Dieu s'est servi d'eux comme il se sert des païens pour manifester sa grâce. On peut arrêter un instant, peut-être, pour vous donner la possibilité de changer de position. Alors nous passons rapidement sur le chapitre 10. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, donc pour les Juifs, c'est qu'ils soient sauvés. C'est pas qu'ils soient perdus. C'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu. Lui-même, il en avait eu du zèle. Mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, mais maintenant nous la connaissons, j'ai pas besoin de m'arrêter, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. On a fait Romains 7. Hein. Et on a compris cela. Christ est la fin de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous avons un esprit nouveau. Nous sommes sous la grâce. Parce que la loi a été notre conducteur jusqu'au Christ. Puis maintenant que nous avons Christ, c'est Christ qui nous conduit et qui va beaucoup plus loin que la loi. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Est-ce qu'il y en a un qui a pu réaliser ça? Et qui a pu être ainsi justifié par les œuvres de loi? Personne. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Et il cite aussi Moïse pour bien nous montrer que c'était déjà ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. La justice qui vient de la foi dit, ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, il est descendu. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est en faire remonter Christ d'entre les morts. Vous comprenez pas quoi? Oui, mais maintenant, pour être sauvé, est-ce que vous devez monter au ciel? Pour être sauvé, est-ce que vous devez descendre au fond d'un abîme? Mais non. Mais tout ça, c'est de la bêtise de chercher son salut d'une façon extraordinaire, aller à l'autre bout de la mer. Comment qui sera sauvé? Mais comment peut-on être sauvé maintenant? Ce n'est pas qui ira le chercher je ne sais où. C'est tout près de vous, la possibilité d'être sauvé. Vous n'avez pas à faire un effort pour monter au ciel. Vous n'avez pas à vous humilier, à descendre jusqu'au plus profond des profondeurs. Quelqu'un a fait tout cela. Parce que si vous raisonnez encore ainsi, vous avez l'air de dire que le Christ n'a rien fait. C'est vous qui vous voulez faire quelque chose. Comprenez-vous? Qui? Alors relisez ce qui est dit dans le Deutéronome. La justice qui vient de la foi, comment parle-t-elle? Elle dit, ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Il faut peut-être aller jusqu'au ciel. Mais comment est-ce que j'y arriverai? C'est un grand problème, mon salut. Ou bien alors, qui descendra dans l'abîme? C'est comme si le Christ n'était pas venu. Christ qui était dans le ciel, lui, il est descendu jusqu'au plus profond des abîmes. Et puis, étant au plus profond des abîmes, il est monté, ayant tout accompli. Alors, que dit-elle? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu n'as pas besoin de faire un voyage à Katmandou pour être sauvé. Tu comprends? Tu peux être sauvé ici. Tu n'as pas besoin de sortir de cette salle pour être sauvé. La parole est près de toi. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose, de dire, ah ben, je vais faire une grande œuvre. Il y a tant d'années maintenant, c'est le moment de faire quelque chose. La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu veux être sauvé? Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Que tu dises oui. C'est tout ce qu'il vous demande. Elle est à votre portée. Vous comprenez maintenant? Elle est à votre disposition. C'est plus un problème. Ne dites pas, oh, cette question du salut, c'est compliqué. Non. Ça vient maintenant de ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Et cette parole de la foi, donc, c'est la parole de Dieu, tu la crois et tu y adhères en disant un oui total, comme Marie, la mère bénie de notre Seigneur. Si tu confesses de ta bouche, verset 9, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus est venu? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus a été crucifié? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus est ressuscité? Est-ce que vous croyez que le Seigneur Jésus est à la droite de Dieu? Est-ce que vous croyez qu'il est venu pour vous? Alors, si vous croyez cela, pourquoi est-ce que vous n'oseriez pas le confesser de votre bouche? Parce que si vous ne le confessez pas de votre bouche, c'est que vous ne voulez pas vous engager. Parce que cette confession, c'est un engagement. Et ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Ça veut dire nettement que vous n'aimez pas le Seigneur Jésus. Rester fermé à Jésus, c'est ne pas l'aimer. Et c'est commettre le péché irrémissible. Si nous tardons. Parce que vous serez condamné non pas parce que vous avez fait ceci et cela, mais vous serez condamné parce que vous n'avez pas aimé celui qui était aimé. Donc le salut est à la portée de tous. verset 10. Car c'est en croyant du cœur, de ce cœur justement d'où partent les issues de la vie, le sang expédiant, le cœur expédiant le sang partout dans nos membres, c'est en croyant du cœur, de ce cœur qui étant rempli maintenant de cette foi et de cet amour de Dieu, eh bien, influencera notre manière de marcher, notre manière de travailler, notre manière de penser, notre manière de parler. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous ne pouvez pas séparer les deux choses. Selon que l'Écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et verset 12, il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et après cela, donc qui établit clairement ce qu'est le salut et comment on peut être sauvé, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce que pour croire, pour invoquer quelqu'un, il faut croire qu'il est, qu'il existe et ce qu'il est. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Il va établir la nécessité de porter l'Évangile. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Quand Jésus est venu, quand les apôtres, après Jésus, ont prêché l'Évangile, eh bien, hélas, parmi les Juifs, il n'y en a que quelques-uns qui ont cru. Et ça s'était aussi annoncé, et vous avez la citation d'Ésaïe 53. Qui a cru à notre prédication, disait Ésaïe. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. C'est quelque chose de merveilleux, ce chapitre, mais pour vraiment les comprendre, il faut les lire et les relire, pour vous habituer à ces expressions. Quand vous voulez amener une personne à la foi, qu'est-ce que vous devez faire? Lui dire, lis la parole. Il faut lui donner la connaissance de la parole. C'est pourquoi j'essaye toujours de mettre la parole devant les yeux de quelqu'un, lis ce qui est dit, comprends ce qui est écrit, et maintenant, crois-tu ce qui est écrit. Et c'est ça la foi. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Et alors, quand vous croyez cela, eh bien, vous avez la paix et le salut. La foi vient de ce qu'on entend. Si vous voulez que les âmes arrivent à la foi, mettez-les en présence de la parole de Dieu. Inutile de vouloir argumenter, mettez-les en présence de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et voulez-vous que votre foi augmente? Apprenez encore à mieux connaître cette parole, puisque la foi vient de ce qu'on entend par la parole de Dieu. Attache-toi à la lecture. Leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. C'est ce qui se produit de plus en plus. La parole est connue dans le monde entier. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et ça s'est réalisé. Quand après la crucifixion du Christ, l'Église primitive a encore essayé de travailler parmi le peuple juif, et que le peuple juif a persécuté les apôtres, a fait mourir Étienne, eh bien Dieu a suscité Saul de Tarse, un des persécuteurs d'Étienne, qui s'est converti au Seigneur, un juif donc, Et il employait ce juif pour aller porter l'évangile à qui? Puisque les juifs n'en voulaient pas. Aux païens. Et alors, en voyant les païens se convertir, les juifs ont commencé d'être jaloux. Et se sont mis à persécuter, avec plus de violence, les chrétiens. Parce qu'ils étaient émus de jalousie, en voyant les bénédictions aussi qu'ils avaient. Et Ésaïe, verset 20, pousse la hardiesse jusqu'à dire, mais tout ça c'était annoncé dans le prophète. J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, c'est qui? Ceux qui ne cherchaient pas? Les païens. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas, c'est encore les païens. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. S'il y a maintenant des juifs qui ne sont pas sauvés, c'est de leur faute. C'est pas que Dieu n'a pas voulu, mais c'est que eux n'ont pas voulu. C'est pas qu'ils n'ont pas pu, mais c'est que eux n'ont pas voulu. Mais évidemment, Dieu savait tout cela, puisqu'il a la connaissance suprême. Et alors, il a voulu, puisque tout s'était perdu, il a voulu, en faisant grâce à certains, nous montrer l'immensité de sa miséricorde, les richesses de sa bonté en ceux qui faisaient, en qui il faisait grâce, et à ceux qui étaient des vases de perdition, le Seigneur le savait, eh bien, il a voulu montrer, avant d'exécuter sa colère sur eux, toute sa patience. Et vous avez là comme exemple, quel roi? Le Pharaon. Alors, chapitre 11. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Voilà la grosse question. Loin de là, car moi aussi je suis israélite. De la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, bien sûr, puisqu'il a appelé en Abraham. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il s'adresse à Dieu en disant cette plainte? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, il parle d'Israël, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul, et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il à Élie, qui se croit tout seul? Comme Paul aurait pu se croire tout seul sauvé. Qu'est-ce qu'il y apprend? Je me suis réservé 7000 hommes, qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Alors, comprenez, si vous vous êtes sauvés, ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui soyez sauvés. Parce que vous ne connaissez pas ceux qui sont sauvés. Élie était pourtant prophète. Et il ignorait que dans ce même pays où il habitait, il y en avait 7000 qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Lui ne savait pas. Il croyait qu'il était resté tout seul. Alors ne vous isolez pas. Celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît. Il est ennemi de toute justice. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous et que tous les autres étant corrompus, vous devez vous tenir à l'écart. Celui qui se tient à l'écart recherche ce qui lui plaît. Mais dites-vous, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas à nous de juger. Et surtout, ne vous croyez pas tout seul. Ne vous croyez pas l'unique, le phénix des autres de ces bois. Il y en a d'autres. Et d'autres qui nous devons. Et c'est bien encourageant. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Parce que dites-vous bien que Dieu fait grâce. Et s'il nous a élus, nous, il peut en élire d'autres. Et uniquement par grâce. Et il a tous les moyens. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce, ça vous le comprenez. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu tandis que les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Vous comprenez, c'est ça qui est terrible. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne pas voir et tient leur dos continuellement courbé. Quand vous avez reçu la lumière, comme les Juifs avaient reçu une grande lumière, et qu'on ne marche pas dans cette lumière, et qu'on se dit, mais nous, nous avons des privilèges, nous avons reçu cette lumière. Nous avons le temple de l'Éternel, nous avons toutes ces institutions. Bien, nous célébrons le culte, et ce ne sont plus que des rites. Mais qu'est-ce qu'il arrive? Ça devient un piège. Et leur table est devenue un piège. De dire à Jérusalem, du moment qu'on a le temple de l'Éternel, il ne peut pas nous arriver malheur, parce qu'on a le temple. La ville ne peut pas être détruite parce que Dieu a son temple. Mais si le peuple ne marche pas dans la fidélité, vous croyez que Dieu va épargner la ville à cause d'un temple? Il détruira la ville. Et le temple. Ne mettez pas votre confiance dans des paroles de mensonge disant « C'est ici le temple de l'Éternel, c'est ici le temple de l'Éternel » ou « C'est ici l'Assemblée, c'est ici l'Assemblée » C'est ici ma congrégation, c'est ici mon église. Vivez ce que vous croyez. Et ne dites pas, mais moi je m'en vais communier, parce que je vais communier, eh bien je serai certainement épargné. Vivez ce que vous connaissez et ce que vous croyez. Et ne vous dites pas que la communion va vous épargner si vous vivez dans le mal. Parce qu'en cela, toute cette religion est devenu un piège pour vous. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais leur chute, par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Quand Dieu a eu donné tout un temps pour qu'Israël se convertisse et que les Juifs n'ont pas voulu, eh bien, il a envoyé ses serviteurs parmi les nations. Et le salut est entré parmi les nations. Ça les a excités à jalousie. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, et c'est vrai, n'est-ce pas? Avant, on parlait surtout des Juifs, peuple de Dieu, et puis, depuis que l'Évangile est entré parmi les païens, on a parlé de qui? De l'Église de Dieu. Et la synagogue est rentrée dans l'ombre. Mais si maintenant l'Église est en pleine apostasie, que va-t-il arriver? Que va-t-il arriver? Est-ce que Dieu avait mis complètement Israël de côté? Non. Si leur chute a été la richesse du monde, c'est-à-dire parce que l'Évangile a pu être annoncé aux païens, et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il quand ils se convertiront tous? Donc, il y a là une promesse de conversion pour les Juifs. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère, c'est la mission qu'il avait reçue, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Maintenant, dans la traduction plus fidèle, on a traduit « si leur mise à l'écart » plutôt que leur rejet, parce qu'il y en a qui avaient conclu, maintenant c'est fini pour les Juifs, leur salut ne peut plus être que dans le fait de se convertir et devenir membre de l'Église. C'est absolument faux. Il y a une vocation distincte pour Israël. Et c'est en relisant et en méditant ces chapitres que vous verrez que Israël reste malgré tout le peuple de Dieu.
Je sais que beaucoup de chrétiens, même évangéliques, croient que l'histoire d'Israël est terminée et que même cette restauration d'Israël en Palestine ne durera pas longtemps et que finalement les Arabes reprendront tout. Parce qu'ils n'admettent pas qu'il y ait une vocation maintenant encore possible pour Israël. Tout devrait être pris par l'Église. Nous ne le croyons pas, parce que nous savons que les promesses de Dieu sont certaines. Et ces chapitres-là nous le montrent. Et à Saint-Benoît-du-Lac, de l'autre côté, il y a un moine, dont Matisse, qui est très malade en ce moment, mais qui a découvert cela aussi, et qui essaye de faire comprendre dans l'Église catholique que il y a une vocation pour Israël et que ce n'est pas par l'Église qu'Israël sera sauvé, mais par la venue du Messie. Il y a une dispensation tout à fait particulière qui est réservée à Israël. Si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration? Sinon une vie d'entre les morts. Alors là, il faudrait lire le chapitre 37 d'Ézéchiel, les ossements desséchés qui reprennent vie. Or, si les prémices sont saintes, qu'est-ce que c'est les prémices? C'est les premiers fruits. Ben, c'était Abraham, les patriarches. La masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, les branches donc, les personnes qui n'ont pas cru, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Alors là, il y a un contresens, parce qu'il ne viendrait jamais à l'idée de quelqu'un de greffer un olivier sauvage sur un olivier franc. Qu'est-ce qu'on fait plutôt? On fait le contraire. Mais justement pour bien montrer que Dieu, lui, fait ce qu'il veut. Hein? C'est justement ça. Ça nous déroute complètement. Là, l'image, elle est tout à fait... C'est un contresens. Personne ne greffera un olivier sauvage sur un olivier franc. On fait le contraire. Mais ici, l'apôtre prend justement un exemple qui ne peut pas se produire, pour montrer qu'avec Dieu, ça se produit. C'est la même histoire qu'avec Abraham. Il ne pouvait plus avoir d'enfant, et bien, il en aura. Et l'impossibilité que nous voyons à ce qu'Israël se convertisse, eh bien, ça se produira. Et pour nous, nous étions donc l'olivier sauvage. Nous, les païens. Et nous avons été greffés sur l'olivier franc. C'est-à-dire que d'où vient notre foi au fond? Est-ce qu'on peut faire une croix sur Israël, nous les chrétiens? Est-ce qu'on peut être antisémite? D'où vient notre foi? Nous sommes fils de qui? Fils d'Abraham. Alors, si nous, qui n'avions aucun droit à cette filiation, à cette relation, nous avons été sauvés, est-ce que nous pouvons mépriser les vraies branches de l'olivier? Non. Souvenons-nous toujours que nous devons tout à Israël. Le salut vient des Juifs. Si nous sommes sauvés, c'est grâce aux Juifs. Alors quand on se souvient de cela, tout est rétabli. Alors si quelques-unes des branches, c'est-à-dire si des Juifs ont été retranchés, si nous qui étions un olivier sauvage, nous avons été hantés à leur place et rendus participants de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais la racine qui te porte. Qu'est-ce qui nous porte? C'est Israël. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je fus hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes
par la foi. Si on est sauvé, c'est par la foi. Mais ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, comprenez-vous, il ne t'épargnera pas non plus. Vous avez l'exemple d'Israël pour nous faire craindre dans l'Église. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Israël est là un exemple de cette bonté, de cette sévérité. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Quel est l'avenir du christianisme, de la chrétienté? C'est d'être vomi de la bouche du Seigneur. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau, pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Je crois que c'est clair et que c'est simple. Ça va? Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Donc, Dieu a ses voies, Dieu a ses conseils. Pendant un temps, il y a eu un endurcissement sur Israël. Et pendant toute cette période, l'évangile a été annoncé aux païens. Mais quand la totalité des païens, de ceux qui doivent être sauvés, sera complète, eh bien, Dieu reprendra ses relations avec Israël. Ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Le salut d'Israël viendra par le retour du Messie. Et c'est à ce moment-là que le peuple se convertira. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause des pères. Dieu les aime. Il se souviendra d'Abraham. Et à cause d'Abraham, il fera grâce aussi à une multitude de Juifs. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Alors voilà le grand argument. C'est à ces quelques versets que vous devez revenir. Le verset qui conclut tout, verset 32, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Et dans le passé, ce que vous devez retenir, c'est que juifs et gentils sont tous coupables devant Dieu. Il n'y a pas de juste, non pas même un seul. De sorte que s'il y a des sauvés, c'est uniquement par la grâce de Dieu. Et si Dieu en sauve, c'est son droit, c'est le droit divin. Dans sa souveraineté absolue, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'injustice en lui. Et vous arrivez à ce merveilleux morceau que nous avons essayé de contempler hier. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire, au siècle des siècles. Amen.
que des questions. Oui. Il ne faut pas presser les expressions, parce que si tu sors le verset « tous, il fait miséricorde à tous », il veut faire... Vraiment, tous peuvent obtenir miséricorde, mais ne reçoivent la miséricorde que ceux qui l'acceptent. Parce que il y a la souveraineté de Dieu, c'est un aspect de la prédestination, mais il y a la responsabilité de l'homme qui reste totale. De sorte que le Seigneur est mort non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Mais en réalité, est-ce que tous les hommes sont sauvés? Non. Il y a de votre part, vous devez répondre à l'appel de Dieu. Si vous ne répondez pas à l'appel de Dieu, c'est la manifestation que votre cœur est endurci. Il y a Dieu qui est souverain, qui vous fait grâce, et maintenant, à vous d'accepter la grâce. Mais ne dites jamais, « Oh ben moi, maintenant, puisqu'il y a cette histoire de prédestination, puisque ce n'est pas celui qui court, puisque ce n'est pas celui qui veut, vous n'avez pas le droit de sortir de son contexte. Eh bien, moi, si je dois être sauvé, je le serai quand même, mais je vis maintenant ma vie. » Est-ce que vous pouvez raisonner ainsi? Non. Dieu vous appelle. Quand quelqu'un vient me dire, ou bon, vous savez, si je dois être sauvé, je le serai quand même. Je dis, mais est-ce que vous êtes déjà allé au Seigneur? Comment? Tu peux parler un peu plus fort? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, et il montre sa souveraineté, mais il montre aussi la responsabilité de ceux qui refusent. La responsabilité du pharaon, elle est entière. Non, c'est pas contre notre cri. Absolument. Du moment qu'il est le maître, nous avons maintenant à lui obéir. Tu voulais dire. Oui, mais le tous. Mais oui, il y a une promesse. Le salut, il est pour tous. Mais Dieu ne forcera personne. Mais il faut prendre le tous dans ce sens que le salut est pour tous. Et que tous ont cette possibilité. Personne n'est prédestiné à la perdition. Non. Mais on peut quand même évangéliser Israël dans le sens de montrer aux Juifs que s'ils se convertissent maintenant, ils éviteront les grandes souffrances de la tribulation. Parce que les Juifs ont au-devant de souffrances pires que celles qu'ils ont connues avec Hitler. Et ça, ils le savent.
La conversion est faite, c'est ceux qui sont là au moment de la fin de Jésus-Christ.
Oui. C'est pas ceux qui sont maintenant. Non. Oui. J'ai entendu un discours de comment ça s'appelle, Begin, au mois de d'avril, et il disait exactement ça. Ils étaient dans une telle angoisse à cause des fusées là qui des Syriens, des Russes, qui disaient nous attendons le Messie. Nous attendons le Messie qui seul peut nous délivrer. C'était assez bouleversant d'entendre ça. Leur victoire, ils ne l'attendaient pas des hommes. Il y a encore une autre question. Tous les païens seront sauvés. Non, c'est la même chose. C'est dans le même sens, oui. Non, là je pense que c'est Israël selon la promesse. Eh bien, ce que vous pouvez faire, parce que demain on va faire le chapitre 12, mais...